Slate Podcast.
Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, je suis Christophe Caron et chaque semaine, nous revenons sur l'actualité politique française ou internationale avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr et Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs.
Bonjour Christophe.
Bonjour Christophe.
Nous vous en parlions la semaine dernière, la publication de vidéos à caractère sexuel mettant en scène Benjamin Griveaux a bouleversé la campagne pour la mairie de Paris. Trois femmes font désormais la course en tête, Anne Hidalgo, la sortante socialiste, Rachida Dati, la challengeuse, les Républicains, et Agnès Buzyn, la candidate surprise, La République en marche. Alors qu'on s'attendait à un classique duel gauche-droite PS-LR, la désignation de l'ancienne ministre de la Santé pour remplacer Benjamin Griveaux semble rebattre les cartes d'une élection capitale pour le président Macron. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Olivier Biffaut, journaliste politique dont vous pouvez lire régulièrement les analyses sur Slate.fr. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous.
Bonjour Christophe.
Olivier, vous suivez les sondages avec attention et vous vous êtes particulièrement intéressé à ceux réalisés après la chute de Benjamin Griveaux. Que nous apprennent-ils ?
Alors en fait, sur les trois, il faut qu'on s'intéresse seulement à deux, je pense, parce que le troisième a été fait en présentant Griveaux comme tête de liste pour La République en marche, et il apparaît le nom de Buzyn dans le sondage lui-même avec une petite astérisque, c'est pas elle qui a été testée. Donc c'est ce sondage-là qui place Rachida Dati le plus haut en lui donnant 25% des voix, 23 à Anne Hidalgo et 17, donc, à Griveaux et non pas Buzyn.
Donc, ce sondage, en fait, qui a un peu surpris tout le monde la semaine dernière où on voyait Dati passer devant Hidalgo, finalement, il est presque nul et non avenu puisque c'était Griveaux qui était testé pour La République En Marche et pas Buzyn.
Je pense qu'il est moins pertinent que les deux autres. S'agissant des deux autres, il y a un sondage Ipsos et un sondage Harris Interactive. Ils placent tous les deux Anne Hidalgo en tête, respectivement pour Harris Interactive à 23% et Hidalgo à 24% dans l'Ipsos. Rachida Dati, elle, est à 23 pour Harris Interactive et 20 dans le sondage Ipsos. Et Buzyn est à 17% dans l'Harris Interactive et 19 dans l'Ipsos. C'est le sondage Ipsos qui la met le plus haut et qui a l'air de montrer qu'il y a une petite dynamique, mais il va falloir voir dans les sondages suivants si effectivement cette dynamique est réelle ou si elle est juste passagère et consécutive à sa nomination qui a un peu troublé le jeu, si je puis dire, et en tout état de cause, il me semble remobiliser les militants de La République En Marche.
Donc pour résumer en fait ce qui se passe, c'est que dans les deux sondages les plus pertinents selon vous, on a toujours le même ordre, c'est-à-dire Hidalgo-Dati avec Buzyn derrière et une légère dynamique Buzyn sur un sondage donc qui serait à un point de Dati. Donc ça veut dire peut-être que finalement tout n'est pas perdu pour La République En Marche ?
Je pense que effectivement tout est ouvert et que en fonction soit des désistements d'avant le premier tour, mais je pense qu'il n'y en aura plus ou en tout cas pas de personnalité marquante, tout dépend des alliances et des fusions qui auront lieu entre les deux tours de l'élection. Ce qu'on peut juste rajouter s'agissant des sondages, si on les prend sur la longueur, parce qu'il y a depuis la fin de l'année dernière une dizaine de sondages qui ont été réalisés. Anne Hidalgo a toujours été en tête, mais on ne perçoit pas de dynamique extrêmement forte. Elle est toujours en tête, très haut, entre 23 et 24%, mais il n'y a pas de dynamique positive ou négative. En revanche, on a vu une dynamique plutôt négative pour Griveaux, jusqu'à son remplacement par Buzyn. Dynamique également négative pour Villani, qui était parti plutôt haut dans les premiers sondages et qui se retrouve aujourd'hui aux alentours de 9-10%. Donc la question de son désistement va certainement se poser dans l'esprit de l'opinion publique, mais je pense que pour lui, elle ne se posera pas. Il ira jusqu'au bout, à mon sens, jusqu'au premier tour. Reste à savoir si après il fera liste commune et avec qui il fera liste commune, s'il fait effectivement entre 5 et 10% des voix, puisque c'est la condition sine qua non pour pouvoir fusionner.
Jean-Marie ?
Avez-vous vu les images d'Agnès Buzyn au moment de sa désignation ? Elle respirait le bonheur. C'était le bonheur absolu, grand sourire, vraiment heureuse. Et alors que quelque temps auparavant, elle refusait d'entrer sur des listes. Ça montre bien que c'est une personnalité qui a une ambition politique forte. ministre, au fond, c'était un peu la portion congrue pour elle. En tout cas, ça n'était pas, au fond, ce qu'elle souhaitait le plus. Et puis, entrer comme colistière quelque part, ça ne l'intéressait encore moins. Être tête de liste dans Paris, là, du coup, elle se réalise. Et je pense que ça compte aussi, ça, dans une campagne.
Mais pourtant, on a l'impression qu'elle est allée un peu en reculant.
Eh bien, son comportement, oui, le body language, comme on dit, et son comportement montre le contraire. Montre qu'au contraire, c'était presque un aboutissement pour elle d'être enfin tête de liste dans Paris. Elle était rayonnante de bonheur. C'est ce qui m'a le plus frappé, avant évidemment d'essuyer quelques larmes au moment où elle a quitté son ministère, ce qui est compréhensible, mais la veille désignée, c'était vraiment l'image du bonheur. Et de fait, ça rebat les cartes et ça redonne une petite chance à En Marche, mais quand même une réflexion là-dessus, parce que Emmanuel Macron avait une place forte électorale, Paris, et l'électorat parisien. Donc on se disait, à mi-mandat, faire la preuve pour En Marche de son implantation et du fait que tout ça n'est pas éphémère, c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu absolu. Or, que s'est-il passé? Emmanuel Macron a désigné un mauvais candidat, parce que avant d'être sorti du jeu, il était quand même mauvais comme candidat, et il était en effet en passe d'être dépassé par Rachida Dati et ainsi de suite. Et donc là, on a l'illustration d'une absence de politique de la part d'Emmanuel Macron et des siens, parce que En Marche n'est pas devenu un parti, ça n'est pas quelque chose de structuré, qui a une feuille de route idéologique et qui a un début d'implantation forte localement, qui montre que c'est fait pour durer, bien non. Et donc ça nous renvoie quand même, pour moi en tout cas, ça renvoie quand même à l'idée que Emmanuel Macron, ça risque de n'être qu'une aventure personnelle. En tout cas, jusqu'à présent, c'est un échec. En tout cas, on verra alors si la personnalité d'Agnès Buzyn, qui est particulièrement adaptée à une partie de l'électorat parisien et notamment à l'électorat de la droite parisienne, rétablit les choses ou remet tout ça en place. D'autant que l'avantage qu'Agnès Buzyn peut avoir, c'est que elle peut être en effet meilleure candidate que Rachida Dati, en tout cas convenant à un électorat plus large que Rachida Dati, qui est quand même très marquée à droite, j'allais dire à droite-droite, d'une part, et d'autre part, il faut se souvenir que Anne Hidalgo, même si elle est, comme l'a souligné Olivier, souvent en tête et toujours en tête dans les sondages d'opinion au premier tour, elle souffre d'un handicap majeur, c'est que 2 Parisiens sur 3, en gros, ne souhaitent pas sa réélection. Ça, c'est un handicap très fort au moment où les gens vont vraiment mettre un bulletin dans l'urne.
Vous parliez de la droite et du fait que Agnès Buzyn pouvait justement capitaliser sur les voix de droite à Paris. Olivier Biffaut, on a vu lors des résultats des élections européennes que La République En Marche avait capté une grande partie des voix de droite dans les sondages. C'est-à-dire que LREM était arrivé dans les fiefs de droite à Paris pour les européennes. On a l'impression que ça n'est pas le cas pour ces municipales. Pourquoi c'est différent?
Mais je pense qu'il y a un facteur personnel qui joue, comme le soulignait Jean-Marie à l'instant, c'est que je crois que au-delà de son propre électorat, Anne Hidalgo a une image personnelle. Alors, certes, au moins un électeur sur deux a un jugement extrêmement négatif sur sa mandature et sur sa façon de gouverner. Elle est assez basse chez les électeurs de Agnès Buzyn, puisqu'il y a 34% qui lui apportent une opinion favorable, et encore plus basse chez Rachida Dati, 17%. Et donc, je crois que le facteur personnel joue un rôle qui est important. Les élections européennes, c'était une élection nationale. Et donc, l'image de Macron ou du macronisme l'emportait de beaucoup dans ce type d'élection. Et il a confirmé aux élections européennes ce qu'il avait fait aux élections, à l'élection présidentielle d'une part, et aux élections législatives qui ont suivi. L'élection municipale est une élection bien plus particulière. Elle donne un très grand rôle aux gens qui sont en place, d'une part, et elle montre aussi la capacité de l'électorat à s'intéresser à quelqu'un qui donne envie. Et comme le soulignait tout à l'heure Jean-Marie à propos d'Agnès Buzyn, qui était effectivement rayonnante quand elle a annoncé sa candidature, l'effet que ça a eu sur son électorat, c'est que ça l'a remobilisé, parce que effectivement, tout le monde s'accorde à reconnaître que Benjamin Griveaux était pas un bon candidat, c'était un mauvais casting, et Agnès Buzyn apparaît comme l'anti-Griveaux, l'antithèse de Griveaux. C'est pour ça qu'elle peut-être capitaliser. Alors, est-ce qu'elle va réussir à prendre des voix à droite qui effectivement peut être un réservoir pour elle. Il y a effectivement une question qui se pose, c'est que comme Rachida Dati est effectivement droite-droite, est-ce qu'une partie de l'électorat de droite qui n'est pas droite-droite peut se sentir plus représentée par Agnès Buzyn? C'est le pari que fait probablement Emmanuel Macron. De même, je pense qu'il y a le pendant à gauche et qu'une partie de l'électorat de gauche peut peut-être se reconnaître à travers Agnès Buzyn plus que à travers Anne Hidalgo. Bon, je suis pas certain que les deux choses s'équilibrent, mais c'est en tout cas le pari qui est fait.
Alors, on parle beaucoup de personnes, de candidats, et j'ai l'impression que dans cette campagne, on parle peu de programmes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de mesures. Alors, il y avait les mesures un peu fantaisistes de Griveaux, de Central Park à la place de la Gare de l'Est, mais on a l'impression qu'aucun candidat ne porte de projet saillant pour Paris. Est-ce que je me trompe, Alain?
Non, moi j'appellerais ça, je prendrais le mot d'un sociologue qui parlait d'une miniaturisation des débats. Les grandes questions qui intéressent les Parisiens dépassent très largement les compétences de la municipalité de Paris. Alors, je sais bien qu'en France, on n'a pas tort, on tient à nos communes, et je sais bien que l'effet de proximité est important dans la démocratie, et que je comprends très bien que le théâtre de la démocratie, le théâtre démocratique le plus immédiat, le plus participatif, c'est au niveau de la commune, c'est valable pour Paris. Mais les grandes questions, transport, que faire du périphérique, préparation des Jeux Olympiques, plan climat. Vous imaginez un plan climat limité à Paris? C'est pourtant ce qu'on essaye de nous vendre, si vous voulez. Un plan climat fondé sur le tout vélo. Il vaut mieux aimer les deux roues, etc. Et donc, si vous voulez, il y a bien un syndicat intercommunal. Il y a la métropole Grand Paris qui essaye tant bien que mal d'avoir des programmes pour les 12 millions de gens qui habitent ce qu'on appelle l'agglomération parisienne. Et donc, ce n'est pas étonnant s'il y a cette miniaturisation des débats. Elle est imposée par des structures. Or, ces structures, j'ai le sentiment qu'elles sont obsolètes. Pourquoi n'avons-nous toujours pas un train ultra rapide ou un métro ultra rapide reliant le centre de Paris à l'aéroport? Pourquoi faut-il prendre un RER vieillot, etc.? Pourquoi est-ce que les transports en commun qui amènent tous les jours des millions de Parisiens ne sont pas adéquats, etc., etc.? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de péréquation fiscale dans la grande métropole parisienne entre les communes riches et les communes pauvres, maintenant les inégalités? De même que le périphérique maintient cette idée aussi de Parisiens et de banlieusards qui n'a pas grand sens.
Olivier, c'est un combat de personne, pas un combat de programme, cette élection?
C'est un combat de personne. Enfin, toute élection est aussi un combat de personne. Je ne sais pas si les électeurs se déterminent vraiment sur des bilans ou sur des programmes. Il y a effectivement de grandes idées qui sont défendues par les grands courants politiques. Il est évident que la sécurité est plus privilégiée quand on est un électeur de droite et que toutes les questions liées au social sont plus privilégiées quand on est un électeur de gauche. Moi, ce qui me frappe, c'est que les thématiques qui sont les plus importantes et qui sont mises en avant par les électeurs et les électrices dans cette élection municipale parisienne vient en tête la propreté. Donc la propreté est un sujet majeur pour les Parisiens. Et du reste, la plupart du temps, ils ont un jugement négatif, voire sévère, voire très sévère dans ce domaine-là. Dans les différents électorats, ce thème-là a un poids important, notamment par exemple dans l'électorat de Villani, dans l'électorat de Buzyn ou dans l'électorat de Dati. Le second thème qui est privilégié par les électeurs, c'est la sécurité. Donc, vous voyez, propreté, sécurité, on est assez loin des grands projets. Il y avait quelque chose qui paraissait totalement surréaliste, c'était le projet de Griveaux de déplacer la gare de
l'Est,
en banlieue, ou le projet de Villani, je crois, de déplacer la gare du Nord à Saint-Denis. Tout ça n'intéresse absolument pas les électeurs et les électrices.
Vous m'arrêtez si je me trompe, mais la propreté, la sécurité, c'est plutôt ce que propose Rachida Dati dans son programme. C'est sur ça qu'elle va, c'est les vieilles recettes.
Tout à fait, c'est pour ça que j'ai dit que c'était des thèmes qui étaient plutôt à droite, notamment la sécurité. Bon, il y a un troisième thème qui est celui des transports en commun, qui est assez également réparti entre tous les électorats. Mais l'environnement, par exemple, c'est un sujet qui vient en quatrième position dans le sondage qui a été fait par Harris Interactive.
Jean-Marie.
Je suis assez d'accord avec ce que disait Alain tout à l'heure, parce que c'est vrai que les grandes questions sont traitables ou solubles dans un ensemble beaucoup plus grand. Et une des grandes idées du quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'était d'ailleurs le grand pari, parce que c'était une amorce de réponse à toutes ces questions. Les transports dans Paris sont étroitement dépendants des flux de personnes qui viennent depuis l'extérieur de Paris et qui viennent travailler à Paris, ainsi de suite. On voit bien que les questions en effet de propreté et de sécurité sont dominantes dans la campagne actuelle, puisque Anne Hidalgo elle-même propose de doubler son budget propreté. Et s'agissant de la sécurité, c'est plus compliqué, parce que sur les questions de sécurité, et notamment liées aussi au problème des migrants, qui sont quand même très aigus dans le nord de la capitale, et qui donne lieu à chaque fois à des expulsions de gens qui sont censés être recasés, ainsi de suite. C'est d'une certaine façon assez honteux ce qui s'est passé, ou ce qui continue de se passer dans Paris de ce point de vue-là. Il y a une guerre absurde entre la mairie Anne Hidalgo et l'État via le préfet de police, mais tout simplement pour affaiblir Anne Hidalgo et faciliter la tâche du candidat d'En Marche, en l'espèce de la candidate d'En Marche. Et Anne Hidalgo, elle, a essayé d'y répondre en proposant une police municipale qui lui a été refusée à l'Assemblée nationale par les députés d'En Marche. Et donc là, on est au cœur de la petite politique et en même temps au cœur des enjeux majeurs de la campagne électorale. Ça, c'est tout à fait évident. Donc ça dépasse de loin les préoccupations qui sont réelles, qui sont environnementales, climatiques et même de transport, qui sont, elles, redevables d'un ensemble beaucoup plus vaste.
Alors vous parlez de petite politique, on parle de propreté, de sécurité. Et pourtant, ce scrutin, il a quand même une dimension très importante pour une personne dont on l'a déjà dit, c'est Emmanuel Macron. Si Agnès Buzyn gagne, il gagne, et si elle perd, lui, il perd.
On peut aborder la question comme ça, effectivement. Comme c'est lui qui a fait le choix et qui a poussé Agnès Buzyn à accepter le poste de chef de file de La République En Marche à Paris, on peut imaginer que si elle réussit, ça va rejaillir sur lui, et à contrario, si elle ne réussit pas, ça va se retourner contre lui. Alors avec La République En Marche, c'est toujours en même temps, quoi. En même temps, le sujet, c'est que l'élection dure le temps d'une élection et on passe à un autre sujet après. Ça aura un impact, évidemment, immédiatement, si elle gagne, d'autant que les résultats sur l'ensemble de la France risquent pour eux de ne pas être considérables. En même temps, très macroniste, il faut voir qu'ils n'ont aucune municipalité sortante. Ils n'étaient pas présents aux élections de 2014. Donc tout ce qu'ils peuvent éventuellement gagner, ça ne peut être qu'une progression. Mais il est évident que gagner Paris ou perdre Paris a une dimension symbolique qui est très forte.
Alain, Emmanuel Macron a beaucoup à perdre dans ce scrutin ?
Sans doute, oui. Sans doute parce que une des clés, si vous voulez, du macronisme, me semble-t-il, c'est d'être capable de prouver à la classe moyenne, malmenée économiquement et socialement, de prouver à la classe moyenne, et même malmenée du point de vue de son statut dans notre société, qu'elle n'est pas exclue, mais de la ramener dans le jeu national à son profit. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les grands partis traditionnels, qu'on croyait singulièrement marginalisés et amoindris, ce sont eux qui, si je retiens bien la leçon des sondages que nous a fait Olivier, ce sont eux qui dominent la scène parisienne, le Parti Socialiste et les Républicains, Madame Hidalgo et Madame Dati. Et donc je pense qu'il joue beaucoup là, oui, effectivement, puisqu'il a lui-même voulu faire de Paris, d'une certaine manière, en s'impliquant dans ce scrutin, d'abord en nommant Griveaux, puis ensuite en nommant Madame Buzyn, puisqu'il a voulu faire de Paris quelque chose qui portait sens pour son parti et pour sa personne, eh bien naturellement, comme le disait Olivier Biffaut, oui, il peut perdre quelque chose, oui. Il peut perdre quelque chose. Et je crois qu'il y a un autre enjeu, moi, qui est au-delà de Macron, mais qui concerne le macronisme, si vous voulez. Si Paris est destiné à être comme Londres, une ville vidée de sa classe moyenne, c'est un coup porté à la démocratie. Alors ce sont des questions compliquées qu'il y a là, une question de logement, etc., etc. Mais moi je crois que un candidat de gauche, et ça vient très rarement d'ailleurs dans les propos de Madame Hidalgo, devrait avoir à cœur de dire « moi je maintiendrai la classe moyenne dans Paris ».
En quoi c'est un coup porté à la démocratie que les classes moyennes s'en aillent de Paris ?
Eh bien c'est un coup porté à la démocratie parce que c'est leur signe de leur marginalisation. C'est le signe qu'au fond, nous n'arrivons pas à arrêter, nous n'avons pas la maîtrise de certains phénomènes économiques liés au logement et à la spéculation. Et qu'en dépit de la soi-disant maîtrise du foncier qu'ont les municipalités en France, c'est quelque chose que nous n'arrivons pas à éviter. Et donc nous aurons des centres-villes, mais Paris est le centre-ville de la métropole parisienne. Paris intramuros, et nous aurons des centres-villes peuplés par les élites, et d'où des phénomènes comme les gilets jaunes, si vous voulez, qui est une révolte contre Paris, de même que le Brexit a été une révolte contre Londres.
Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Alain, il faut rappeler de ce point de vue-là que, sous le mandat de Anne Hidalgo, Paris perd à peu près 12 à 15 000 habitants par an. La classe moyenne ne peut plus vivre à Paris, faute de trouver à se loger décemment à des prix abordables. Et donc ça, c'est une transformation assez profonde qui va d'ailleurs de fait aussi avec la ghettoisation de certains secteurs de Paris, de certains arrondissements de Paris. Et ça, c'est un phénomène majeur qui est en effet de nature à changer complètement la donne et, comme le dit Alain très justement, à affaiblir au bout de la route la démocratie.
Olivier ?
Je voulais juste rebondir sur une remarque d'Alain à propos de la place et de l'importance des partis politiques qui étaient revenus dans le jeu. Je voudrais un petit peu amender sa réponse ou son point de vue. C'est que il faut pas oublier que aujourd'hui Anne Hidalgo et Rachida Dati font des scores d'intention de vote qui sont de l'ordre de 20 à 24%. Il faut se souvenir de l'élection des élections municipales de 2014. En 2014,
que Susco est au-dessus de 30%.
Anne Hidalgo est à 34,4% au premier tour. Et Nathalie Kosciusko-Morizet, qui fait un score supérieur à celui d'Anne Hidalgo, est à 35,6%. Donc vous voyez le fossé qu'il y a entre ces deux élections. Elles ont tous les deux perdu environ 10 à 15 points. Et il y a quelque chose de nouveau d'autre qui s'est inséré entre les deux.
Alors ce quelque chose, tout le monde pensait aux écolos. Et tout le monde disait, ça va être l'élection reine pour les écologistes. Après leur succès des européennes, il va y avoir Paris. Et le candidat des écologistes rêvait même d'être lui-même le prochain maire de Paris. Pour le moment, il n'en est rien. Et vraisemblablement, il n'en sera rien. Parce que ce sont des thèmes trop limités malgré tout. Et comme le disait Alain, par définition, les thèmes écologistes ne sont pas solubles par l'action d'une municipalité réduite aux seules frontières de Paris à l'intérieur du périphérique. Mais évidemment, les solutions sont à rechercher bien au-delà dans des structures beaucoup plus larges.
Le candidat écologiste, qui est donc David Belliard, Europe Écologie Les Verts, et qui, je crois, fait moins de 10%, c'est ça, Olivier ?
David Belliard, non, il ne fait pas moins de 10%. Il est aux alentours de 13-14%. Mais ce qu'on peut noter, ça va dans le sens de ce que disait Jean-Marie, c'est que depuis 4 ou 5 mois, il fait du surplace. Il est tout à fait dans les mêmes scores, dans les mêmes eaux. Et il y a quelque chose qui est assez amusant à noter, c'est que quand on demande aux gens s'ils ont une bonne opinion ou une mauvaise opinion des principales têtes de liste, c'est Ipsos qui a fait ce sondage-là. Anne Hidalgo recueille 46% de bonnes opinions et 50% de mauvaises opinions. Elle fait donc moins 4 en différence. Dati est à 41% de bonnes opinions et 53% de mauvaises opinions. Elle est à moins 12. Villani, 53% de bonnes opinions et 34% de mauvaises, donc à plus 19. Et Buzyn est à 49% de bonnes opinions et 38% de mauvaises opinions. Elle est à plus 11. Ce qui veut dire, si on prend le cas de Villani, que avoir la bonne opinion de quelqu'un n'assure pas d'avoir des intentions de vote. Comme on parlait de Belliard, Belliard, il a 24% de bonnes opinions, 18% de mauvaises opinions et 58% de gens qui n'ont pas d'opinion parce qu'ils ne le connaissent pas.
Est-ce qui peut être la pire des choses ?
Cela dit, si on regarde tous ces chiffres à ce stade, qu'est-ce qui peut se passer? Anne Hidalgo va être, il y a donc une furieuse bataille à droite, Agnès Buzyn aidant avec Rachida Dati, et une bonne capacité pour quand même, Agnès Buzyn incarne une forme de bourgeoisie parisienne bien installée, elle-même est un grand médecin, ainsi de suite, donc elle a de quoi contester le leadership à droite de Rachida Dati ou ramener Rachida dans des frontières plus étroites. Mais ça veut dire aussi que Anne Hidalgo, elle, va être fortement déportée à gauche. Parce que si elle veut l'emporter entre les deux tours, et probablement peut-être ça se jouera au troisième tour, on va peut-être rappeler la règle du jeu tout à l'heure, elle va être obligée de s'allier avec le PC, avec voire la France Insoumise.
Elle est déjà alliée au PC, avec
les écolos. Et puis la France Insoumise est un petit réservoir de vote, malgré tout, qui existe. Et puis aux écolos. Et donc ça va la déporter fortement sur sa gauche, laissant le champ libre à une peut-être à une municipalité de droite. D'ailleurs, c'est toute la question va être là pour Paris et pour Anne Hidalgo. Il faut donc rappeler que Paris, c'est pas une circonscription, hein. C'est 17 circonscriptions et ça se joue essentiellement dans les arrondissements. Et donc, il y a des alliances qui vont se faire en vue du deuxième tour, puisqu'ils ne seront présents que ceux qui peuvent se qualifier. Mais peut-être que à l'issue du deuxième tour, il y aura trois ou quatre prétendants, et que tout ça se jouera dans les débats du troisième tour, c'est-à-dire au moment où seront rassemblés à l'hôtel de ville les nouveaux élus, et que c'est là que ça va se jouer, peut-être à la façon de la 4e République, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une possibilité.
Olivier, vous avez comparé sur Slate justement l'élection du maire de Paris, ou de la maire de Paris, à l'élection du président américain, puisque finalement ce sont comme des arrondissements seraient comme des États finalement qui désignent le président du conseil de
Paris.
C'est
le même principe, tout ça a été établi par... Des lois qui remontent assez loin en arrière. En 1982, ça rentrait dans le cadre des lois de décentralisation dites de loi de fer, de Gaston de Fer, qui était le ministre de l'Intérieur du président élu alors François Mitterrand. Et on appelle cette loi PLM ou PML. Alors, c'est PML pour Paris-Marseille-Lyon et on ne l'appelle plus PLM parce que c'est Paris-Lyon-Marseille qui était une ligne de chemin de fer. En gros, c'est comme l'élection américaine, c'est-à-dire que vous avez à Paris, à Lyon et à Marseille des arrondissements ou des secteurs. À Paris, on avait auparavant 20 arrondissements, donc 20 élections dans chaque arrondissement. Ça a été réduit à 17 secteurs puisque les 4 premiers arrondissements ont été regroupés en un seul. À Lyon, vous avez 8 secteurs qui regroupent chacun 2 arrondissements et à Marseille, vous avez 9 secteurs. Et donc, chacun de ces secteurs a des élus locaux, qui sont des conseillers municipaux, et des conseillers de la ville. Donc à Paris, ce sont des conseillers de Paris. À Paris, vous avez en tout, de mémoire, plus de 500 conseillers, dont 163 siègent au Conseil de Paris. Tous les autres siègent dans les conseils d'arrondissement. Et donc, au Conseil de Paris, ces 163 conseillers élisent le maire de Paris. Et comme le soulignait Jean-Marie à l'instant, tout va dépendre des rapports de force qui auront été donnés lors des élections municipales au premier et second tour et le nombre de conseillers de Paris qui auront été envoyés au Conseil de Paris par chaque force politique. Parce que on peut, dans cette hypothèse, imaginer des regroupements qui soient des regroupements de circonstances qui font que tel conseiller ou tel groupe de conseillers s'allie à tel autre groupe de conseillers pour battre un troisième groupe de conseillers qui est plus important que les deux premiers, par exemple. C'est tout à fait imaginable.
Ce qui veut dire qu'on aura peut-être un ou une maire de Paris qui ne sera pas forcément le gagnant en voix, mais qui sera le gagnant du jeu d'alliance. Et je pense qu'on peut faire un pronostic sans trop avoir peur de se tromper en disant que ce sera probablement une femme qui sera la prochaine maire de Paris, sauf extrême surprise. Merci messieurs d'avoir participé au Monde Devant Soi. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci Christophe.
Merci.
Merci Christophe.
Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.